Mardi Politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Valérie Gasse.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi Politique, l'émission du service politique de RFI en collaboration avec l'AFP et Libération. Nous inaugurons ce soir une nouvelle formule pour assurer l'équité en cette période électorale. Nous recevons deux invités. Tout d'abord, François de Rugy, député de Loire-Atlantique et coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Bonsoir François.
Bonsoir.
De Rugy. Nous recevrons dans la seconde partie de Mardi Politique Robert Rochefort, vice-président du Mouvement démocrate, député européen et candidat aux élections européennes de mai, sous l'étiquette de la nouvelle formation centriste, l'Alternative. François de Rugy à mes côtés pour vous interroger ce soir, Bernard Pellegrin de l'AFP. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Et Jonathan Boucher-Petersen de Libération.
Bonsoir.
Alors depuis la semaine dernière, François de Rugy, Nicolas Sarkozy est dans l'œil du cyclone, hein, après les révélations sur les enregistrements sauvages de ses conversations réalisées par l'un de ses plus proches conseillers, le très controversé Patrick Buisson, et bien des enregistrements qui ont été diffusés dans la presse. On a ensuite appris que Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog avaient été placés sur écoute, que ces écoutes avaient duré pendant un an. Et bien sûr, tout de suite, les proches de l'ancien président ont dénoncé un complot et ont mis en cause le pouvoir. Je vous propose d'ailleurs, pour commencer cette séquence, d'écouter Luc Chatel qui s'exprimait ce matin sur RFI.
Je n'imagine pas une seconde que le ministre de l'Intérieur n'ait pas pu être au courant. Et je n'imagine pas une seconde que le ministre de l'Intérieur n'ait pas informé son supérieur, c'est-à-dire le président de la République. Le président de la République doit lever ce voile. Il doit d'autant plus le lever qu'il a lui-même suscité le trouble, puisque nous avons entendu de la part de députés socialistes qu'il leur aurait dit il y a quelques jours « Sarkozy, je le surveille. Je sais exactement ce qu'il fait. » Enfin, c'est extrêmement grave. Nous demandons au président de la République de lever immédiatement l'ambiguïté.
Alors François de Rugy, est-ce que vous partagez les inquiétudes de Luc Chatel et est-ce que vous pensez que François Hollande était au courant ? Cet après-midi, on apprend que dans le Canard enchaîné, on dit que Manuel Valls et Christiane Taubira avaient été tenus informés de ces écoutes de Nicolas Sarkozy.
Je crois que ces réactions de responsables politiques de l'UMP, proches de M. Sarkozy, sont des écrans de fumée, sont des manœuvres de diversion. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, comme il y en a souvent, moi c'est ça qui me désole, c'est qu'en France, et un peu à gauche comme à droite, je crois que nous les écologistes d'ailleurs, on peut nous faire crédit d'avoir toujours évité cela, dès qu'il y a une mise en cause judiciaire, on crie au complot. Ça a été le cas, souvenez-vous, moi ça m'avait beaucoup choqué autour de Dominique Strauss-Kahn. Certains ont refait le coup avec Jérôme Cahuzac. Le résultat de tout ça, c'est que c'est très difficile d'y voir clair, alors que dans les affaires Sarkozy, il faut y voir clair. Et il faut que la justice puisse aller au bout. Il faut que la justice et la police puissent faire leur travail normalement. Peu importe la question de savoir si les ministres sont mis au courant. Je veux dire, moi sur le fond, je serais pour qu'il y ait une coupure nette. Et que il n'y ait pas des synthèses d'enquête qui soient envoyées au ministre de la Justice, quel qu'il soit.
Donc,
et ça, aujourd'hui, c'est la tradition française. C'est ainsi que l'on fonctionne, au point qu'un homme politique de droite censé défendre M. Sarkozy vient accuser les ministres de faire semblant de ne pas être au courant. Mais qu'est-ce que ça change ? Le fond de l'affaire, et c'est ça qui est important, c'est de savoir si oui ou non, M. Sarkozy, par exemple, a essayé d'utiliser des relations de son avocat avec un haut magistrat pour fausser une enquête. Parce que c'est rien d'autre que cela, c'est essayer de fausser le bon déroulement d'une enquête judiciaire.
Bernard Pellegrin.
Alors, est-ce que la proximité des élections municipales, on est à 15 jours du premier tour, explique en partie quand même et l'affolement un peu de la classe politique et l'investissement de la droite dans des accusations directes liées au président de la République, au Premier ministre? Est-ce que finalement, si on était hors élection, les choses ne se seraient pas passées de façon un peu plus calme?
Peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces histoires n'ont pas de lien avec le calendrier électoral. D'abord, je rappelle qu'on est dans des élections municipales.
Il y a quand même beaucoup de choses qui sortent là récemment.
Oui, mais enfin, M. Sarkozy n'est pas candidat aux élections municipales, je crois. Contrairement à d'autres, il n'a pas fait le choix de revenir en politique par la base. Mais plus sérieusement, le problème, c'est que on voit bien qu'il y a plein de choses qui se mélangent. D'abord, il y a des règlements de compte entre personnes de droite, entre responsables de l'UMP. C'est évident que les révélations sur Copé et les prestations, ce sont des informations internes à l'UMP et qui ont été fournies à la presse. Ensuite, vous avez, sachant qu'il y avait quand même eu les comptes de M. Sarkozy à l'élection présidentielle qui ont été invalidés. M. Sarkozy, moi je tiens à le dire, a été condamné. il a été condamné par une instance, le Conseil constitutionnel, en disant vos comptes ne sont pas valides et du coup vous ne serez pas remboursé. C'est une condamnation lourde d'ailleurs, parce que ne pas être remboursé de 11 millions, c'est lourd. Et puis il y a l'affaire Buisson. L'affaire Buisson, c'est d'ailleurs c'est écœurant, parce qu'on voit que il y a le père, le fils, des proches, etc. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui était au cœur de l'État, du sommet de l'État, et qui enregistrait toutes les conversations. D'ailleurs, les proches de M. Sarkozy, là, sont choqués, mais contre un autre proche de M. Sarkozy. Et puis, maintenant, il y a les enquêtes sur Nicolas Sarkozy, mais les enquêtes sur Nicolas Sarkozy, pour la plupart, elles ont été déclenchées avant l'alternance de 2012. Donc ça n'a rien à voir avec une quelconque manipulation ou instrumentalisation politique. Il faut sortir de cette idée que la justice est au service de la politique. La justice, elle doit être, et elle l'est d'ailleurs, indépendante de la politique.
Pourquoi ne pas dire alors, Christiane Taubira, Manuel Valls, oui, on savait. Vous le dites vous-même, il y a des procédures, ça remonte, l'information remonte, aussi bien au ministère de la Justice qu'au ministère de l'Intérieur. Après, visiblement, si c'est le cas,
qu'est-ce qu'il savait,
s'il n'y a pas de problème, pourquoi ne pas...
Des synthèses d'enquête, etc. Bon, c'est pas le débat. Le fond de la question, c'est qu'est-ce qui est reproché à tel ou tel. Est-ce que faire des écoutes, ça c'est une vraie question, des écoutes, quelle que soit la personne écoutée. Moi, si je suis écouté, par exemple, bah, évidemment, je serais choqué d'être écouté parce que je n'ai rien à me reprocher, on ne m'a jamais signifié la moindre procédure judiciaire, etc., etc. Mais si M. Sarkozy a été écouté dans le cadre d'une affaire, à la demande d'un juge d'instruction, dans le respect des procédures normales sur les écoutes, c'est quand même logique. C'est pas parce qu'on s'appelle Nicolas Sarkozy qu'on ne doit pas être écouté, alors que le même Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, se félicitait sans doute de l'action de la police et de la justice pour réussir à mettre fin à tel ou tel délit, à tel ou telle infraction. Je me souviens, quand il faisait le tour des commissariats, il disait les interpellations, il n'y a que ça de vrai. Donc il était bien pour que la police puisse agir sans entrave.
Jonathan Boucher-Petersen.
Non, parce qu'on comprend bien que ce n'est pas le sujet de fond. Il n'empêche que le débat tourne beaucoup autour de ça, et que ce soit la responsabilité des avocats comme d'un certain nombre de responsables de droite. La façon dont le débat est posé, on interroge l'indépendance, on interroge la qualité de l'exercice de la justice dans ce pays. Est-ce que dans ce cadre-là, François Hollande n'a pas vocation à venir clarifier ce qui est peut-être un nouvel exercice du pouvoir? Enfin, réaffirmer un certain nombre de valeurs, ou est-ce que c'est tombé dans le piège?
Les avocats lui demandent d'ailleurs.
Cette demande lui est faite de façon récurrente ces derniers jours.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la question des avocats, puis il y a la question de l'indépendance de la justice. La question des avocats, moi, je vais vous dire, le sentiment que j'ai, et je crois que ça fait beaucoup de dégâts chez les Français, c'est qu'une partie des élites françaises voudrait se soustraire à la loi. Et finalement, n'accepte pas l'égalité devant la loi, qui est pourtant le principe républicain de base. C'est le pacte républicain. On ne peut vivre ensemble dans une république que si on a le sentiment, pas simplement une réalité, mais le sentiment que nous sommes tous égaux devant la loi. Et Monsieur Sarkozy, la réalité, c'est qu'il veut se soustraire sans cesse dans différents domaines. C'est l'histoire tapis avec l'arbitrage, alors que c'était pas une procédure normale. C'est l'histoire des comptes de campagne. Ah ben moi je suis président de la République, j'ai pas besoin de respecter les règles sur les comptes de campagne, alors qu'elles s'appliquent aux autres candidats, et ainsi de suite. Sur la question de la justice, je rappelle que François Hollande, président de la République, le gouvernement, les parlementaires, la majorité parlementaire à laquelle j'appartiens, nous avons voulu voter un certain nombre de lois pour garantir, pour aller plus loin dans les garanties d'indépendance de la justice. Qui s'y est opposé? L'UMP, systématiquement. La vérité, moi je le ressens en tant que parlementaire à l'Assemblée, lorsqu'un député UMP pose une question en critiquant les magistrats, il est applaudi à tout rompre par ses collègues. Ça me choque profondément. Il y a un sentiment anti-juge à l'UMP qui est très choquant, parce que en réalité, c'est vraiment faire un mauvais procès à la justice que de considérer que c'est des gauchistes ou des laxistes ou que sais-je. La justice, elle doit pouvoir agir en indépendance, et il faut qu'on accepte, que l'on soit politique ou pas, l'indépendance de la justice.
Bernard Pellegrin.
Alors, pardon d'insister avec les municipales, mais enfin, c'est quand même l'échéance la plus courte politiquement à venir, et c'est la première depuis que François Hollande est aux affaires, qui va nous indiquer un petit peu où on en est dans le rapport de force. Mais malgré tout, est-ce que vous ne craignez pas que ces affaires qui sortent là, une par jour pratiquement, bah, ne viennent renforcer tout bêtement le vote Front National? Je sais bien que ma question n'est pas originale, mais elle est centrale.
Moi, je vais vous dire mon sentiment, c'est que je ressens, je suis député depuis un peu moins de 7 ans, j'ai été élu en 2007, réélu en 2012, je ressens depuis maintenant déjà un certain temps le sentiment anti-élu, anti-parlementaire, monter Alors certains disent tous pourris, je sais même pas s'il faut tout de suite basculer dans cette espèce de d'expression toute faite. Mais la crise de défiance vis-à-vis des élus, vis-à-vis des responsables politiques, elle est de plus en plus forte. Elle ne date pas de ces dernières révélations, mais évidemment elle est aggravée par ces dernières révélations. Moi je fais partie de ceux, alors peut-être que certains me traiteront de naïf, qui pensent que c'est en allant plus loin dans l'indépendance de la justice, en allant plus loin dans la transparence, que l'on permettra de tisser un lien de confiance et d'en finir avec cette crise de défiance, et que c'est pas en essayant de se protéger ou en essayant de freiner ou en essayant de s'envoyer à la figure, t'es au courant, t'es pas au courant, les juges t'ont transmis, les policiers, etc. Ça, en effet, est-ce que ça fera monter le Front National ? Je n'en sais rien, je pense qu'il est déjà très haut, malheureusement, ne serait-ce qu'à la présidentielle. Hein, on va pas découvrir que Marine Le Pen a fait 18% à la dernière élection présidentielle. Et moi, je ne veux pas qu'on fasse tourner tout le débat politique autour du Front National, c'est le meilleur cadeau qu'on pourrait lui faire. Donc je ne sais pas si ça fera augmenter le Front National, l'abstention, tout ça, ce sont des sentiments déjà très forts. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut y remédier. Et là, je pense que si on pouvait collectivement, je crains que ça n'en prenne pas le chemin avec l'UMP, prendre des mesures pour l'indépendance de la justice, on ferait œuvre utile.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement, pour éviter ce climat de suspicion, faire comme l'a dit François Fillon, ouvrir une commission d'enquête parlementaire, clarifier les choses et peut-être aller sur aussi la question des écoutes. Hein, les avocats sont montés au créneau parce qu'un avocat a été mis sur écoute. Est-ce qu'il ne faut pas là-dessus aller un peu plus loin, que les choses soient, les règles soient mieux établies et que la confidentialité des échanges avec un avocat soit assurée.
Mais une commission d'enquête parlementaire sur quoi ?
Sur les circonstances de cette...
Une commission d'enquête parlementaire sur le fonctionnement de la justice ? Sur le fonctionnement de la police ? Sur les écoutes téléphoniques ? Sur les avocats ?
Ces écoutes ont été
sur
beaucoup décriées. Vous disiez, avec Nicolas Sarkozy, rien n'est normal.
Mais alors, une commission d'enquête parlementaire sur M. Sarkozy ?
Beaucoup d'avocats ont dénoncé des écoutes qui ont duré un an, ce qui, visiblement, n'est pas le cas, même dans les affaires de grand banditisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi caractère exceptionnel dans ce sens-là ?
J'espère. J'ai la faiblesse de penser et d'espérer que la police et la justice de France enquêtent parfois plus d'un an sur des bandits, sur des gens qui font du blanchiment d'argent, sur des gens qui font des casses, ou etc. Enfin, ou qui font du trafic de drogue, ou qui font du trafic d'êtres humains. On a été amené à en parler il y a quelques mois à l'Assemblée nationale. J'ai bien vu que on en parlait beaucoup, mais qu'on faisait pas grand chose. Bon, je pense que évidemment que sur ces questions, il faut donner les moyens à la police et à la justice. Ces dernières années, on a plutôt eu une série de lois qui visaient à donner davantage de moyens, de procédures à la justice et à la police. Et notamment à la police, en disant il faut qu'elle puisse agir sans cesse. Et c'est un débat que moi j'ai déjà eu d'ailleurs avec des responsables policiers de mon département. Ils disent on a trop de paperasse, trop de procédures à faire lorsque l'on veut faire des enquêtes. Bon, et bien là, lorsque ça touche un politique, on dit ah non, là il faudrait qu'il y ait d'autres couches de procédures, d'autres couches qui freinent en réalité. De toute façon, on le sait très bien, le RPR, quand c'était les affaires Chirac, etc., Tibéri, qui ne sont même pas encore toutes jugées plusieurs dizaines d'années après, n'ont qu'une seule stratégie, c'est les stratégies de retardement. Et M. Sarkozy, maintenant, il fait pareil. Eh bien, c'est l'inverse. Je pense que le souhait des Français, c'est qu'on en finisse avec ces stratégies de retardement.
Jonathan Boucher-Peterson.
Non, je voulais revenir sur la question du municipal, qui, au-delà d'être une toile de fond, est aussi une échéance électorale
très importante,
à l'issue de laquelle on mesurera des rapports de force. Simplement sur le positionnement d'Europe Écologie Les Verts dans cette campagne,
très,
il y a des endroits où vous partez avec, vous rappeliez votre appartenance à la majorité, donc des fois assez naturellement vous partez avec le PS, dans d'autres endroits vous partez de façon plus autonome, parfois vous recomposez la gauche avec une partie des amis de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça c'est quoi ? C'est l'accumulation de petits opportunismes locaux ou c'est le fruit d'une stratégie nationale intelligible ?
Non, les écologistes n'ont jamais considéré, jamais, vous pouvez regarder dans l'histoire des Verts, ça fait 30 ans, je crois que Libération a fait un dossier très intéressant d'ailleurs sur les 30 ans des Verts, jamais nous n'avons eu une stratégie nationale qui s'applique dans toutes les communes de France. D'ailleurs, je constate que maintenant, plus aucun parti ne fait cela.
Peu de partis sont capables de la tenir.
Mais à une époque, ça se faisait. Ouais. À une époque, vous aviez des accords nationaux sur les municipales. Ça ne se fait plus dans aucun parti parce que on voit bien que les enjeux locaux sont forts. Il y a d'ailleurs jamais eu autant de listes, notamment dans les villes. Hein. Et donc, je crois que les écologistes ont eu raison de dire, en fonction de l'analyse politique que l'on fait, alors vous dites des opportunismes locaux, je m'excuse de vous dire que les partis politiques, ils font des analyses politiques, je peux vous parler de Nantes, j'ai été élu à une époque, eh bien nous avons fait une analyse sur la situation politique locale et nous en avons tiré la conclusion que nous allions présenter une liste que nous faisons à Paris, à Lyon, à Toulouse,
c'est ainsi. Il a fallu une analyse pour ça, ou bien c'était pas un peu des décidé ou d'avance tout de
mais
même.
Mais pas du tout.
Pas du
ah
tout.
Non, je peux
ça
vous
aurait
dire
pu
que
basculer du côté non, on ne fera pas d'ailleurs.
Les Verts prennent leur décision, même c'est d'ailleurs assez étonnant, mais c'est ainsi à l'échelle de chaque ville. Et donc, parfois, dans les mêmes agglomérations, vous pouvez avoir des stratégies différentes parce que les gens ne font pas la même analyse. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose que nous défendons parce que, justement, nous considérons que les élections municipales sont des élections locales et qu'il ne faut pas y plaquer dessus des considérations nationales. Après que les électrices et les électeurs aient éventuellement envie d'envoyer aussi un message politique au-delà des situations locales, par rapport à la situation nationale, c'est possible, sans doute. Nous leur disons d'ailleurs que là où il y a des listes écologistes, le vote écologiste leur sera utile dans la politique locale, s'ils veulent mettre plus d'écologie dans la politique municipale, mais s'ils veulent aussi en mettre plus dans la politique nationale, c'est pareil, ils peuvent utiliser le bulletin de vote écologiste, il est là pour ça.
Bernard Pellegrin.
Mais franchement, c'est quoi aujourd'hui, à la veille de ces municipales, la différence verte, la différence écologique? C'est quoi la différence? Ouais. Après deux... Non mais... Je pose ma question de façon neutre et tout à fait plate, mais malgré tout, aujourd'hui, après presque deux ans d'un gouvernement où, on le sait, les écologistes ont tout de même avalé un certain nombre de couleuvres, c'est quoi votre différence ?
Je vais vous donner un exemple simple d'actualité. Aujourd'hui, en France, enfin, il fait beau. Il y a du soleil. Tout le monde se réjouit de cette météo sympathique après des semaines et des semaines de pluie. Je ne dis même pas que ça a à voir avec le dérèglement climatique, même si on peut le penser. On a ce beau temps et voilà que nous tombent des messages de l'AFP, de RFI sans doute, de Libération, de tous les médias qui disent aux Français « Attention !» Ce week-end, par exemple, eh bien, si vous voulez aller faire un footing, n'en faites pas, l'air est pollué. Vous avez des enfants petits, ne les sortez pas. Moi, j'ai un fils de 2 ans et demi, donc on me dit, non, surtout, ne sortez pas avec lui ce week-end, restez chez vous, l'air est trop pollué. Eh bien, voilà un exemple simple où nous avons, vous le savez, dit depuis longtemps que la question des particules fines, qui est en cause aujourd'hui dans la pollution de l'air, c'est la question des moteurs diesel, pas uniquement, mais principalement des moteurs diesel, et qu'il faut agir. Alors, on ne l'a pas fait en traitant le problème au fond, ça fait des années et des années, gouvernement gauche et droite confondus, on a des mesures d'urgence que l'on peut prendre, la circulation alternée, nous le prenons, notamment à Paris, la liste écologiste conduite par Christophe Najdowski le fait, et malheureusement, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Voilà un exemple concret, où si vous voulez, si les écologistes étaient davantage écoutés, eh bien, on aurait davantage de mesures concrètes.
Et aux européennes, c'est un gros enjeu pour vous, les européennes. On a très peu de temps qui nous reste, François de Rugy.
Je reviendrai pour les européennes. Si
vous reviendrez pour les européennes. ce sera un moyen, si vous avez un bon score, de justement renégocier le rapport de force au sein du gouvernement?
Oh, je sais même pas s'il faut dire les choses comme ça. Nous, on veut faire, alors c'est pareil, sur les élections européennes, une campagne européenne. Mais par ailleurs, c'est évident qu'on a souvent dit que c'est un sondage national grandeur nature. Et en effet, il sera intéressant de voir à l'issue de ces élections, en tout cas pour nous écologistes, parce que je réponds aussi à votre question de tout à l'heure, on nous a tellement dit depuis 2012, vous ne pesez rien, 2,3%, vous n'avez des élus que grâce avec l'accord avec le PS, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a entendu ça? Eh bien là, on verra ce que les Français ont voulu, ce qu'ils ont décidé par leur bulletin de vote, tant au municipal qu'aux européennes.
Eh bien, merci François de Rugy d'avoir été l'invité de cette première partie de Mardi Politique. Donc François de Rugy, co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Nous interrompons pendant quelques minutes et nous retrouvons dans la deuxième partie de Mardi Politique Robert Rochefort, le vice-président du Mouvement démocrate.
Radio France Internationale.